nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Elle lui découvre ses dessous. Tu as l'air d'une belle petite, tu sais. Tu as l'air d'avoir une jolie poitrine, tu sais. Elle sort. De jolis seins, bien fermes et blancs. Elle les caresse du bout des doigts. Apolline ne bouge toujours pas. Elle se sent un peu gênée. Ses doigts sur ses seins. Ça fait un drôle d'effet. Oui, ils sont bien fermes. Elle est sous pèse. Apolline est rouge de honte et regarde le plafond. Michel descend une main le long de son corps vers la taille, puis saute la taille pour se trouver en haut des cuisses. Là, par-dessus la robe, elle les caresse, ou plutôt les plotte, pendant que l'autre main est sur son sein. Quel malasque! C'en est trop. Cette main sur le haut des cuisses, vous avez les mains froides. Cette voix surprend Michel et coupe l'inoptisation qu'elle avait sur ce corps de belle jeune fille. Elle revient à la réalité. Elle lâche le sein qui de toute façon était resté mou et la cuisse. Apolline est toute rouge, elle lui dit « Je vais me lever, il se fait tard. » Elle se soulève et se rhabille. Michel, honteuse, se redresse. « Bon, eh bien, je te laisse. » Michel lui dit « Tu t'en vas ? Oui, il est déjà tard. » Michel va vers la table pour prendre les chansons des partitions qu'elle apprend pour les lui tendre. « Tiens, prends-les pour apprendre. Non, pas la peine. serais incapable d'apprendre toute seule. Et puis, je retourne devant mon frère. Elle se dirige vers la sortie. Michel va la rejoindre et lui dit « Attends, je vais t'accompagner. » « Non, pas la peine, je prends un fiacre. » C'est plus vite fait. Et puis les gens du quartier commencent à me connaître. On ne me fera pas de mal. Je suis d'aider pour eux. Bon, alors au revoir. Michel est dans tous ses états. Elle regrette de s'être comportée comme ça. Elle ne reviendra sûrement pas. Elle va à la fenêtre, la voit partir. Elle la voit qui longe la petite rue. Mon Dieu, j'ai fait une grosse erreur. Si elle ne venait plus. Nous sommes ni embrassés, ni tendu la main lorsqu'elle est partie. Elle a dû comprendre ce que j'étais et va vouloir arrêter l'affaire. Et je vais me retrouver sans un sou dans cette cabane. Mon Dieu, faites à ce qu'elle revienne. À ce que tout se passe comme avant. Apolline pense à ce que lui a fait Michel. C'est la première fois qu'une autre personne que Jules la touche. Et en plus, c'est une femme. Une femme moche, vieille, qui ressemble plus à un homme qu'à une femme. Elle se dit que c'est normal, vu ce qu'elle fait. Arrivée chez elle, elle va directement à sa chambre. Se déshabille jusqu'à la ceinture et se nettoie les seins à l'eau de Cologne. On ne sait jamais. Elle ne doit pas se laver souvent les mains. En tout cas, elle a du goût. C'est vrai que j'ai de jolis seins. Je préfère garder mon intimité pour les hommes. Quelle vieille chèvre, tout de même. Elle a eu un sacré culot de me faire ça. Puis elle se rhabille, se coiffe, va dans sa chambre. Va de sa chambre. Elle retrouve Charles-André au salon. S'assoit sur le canapé et lui demande « Tu as écrit aujourd'hui ?»« Non, j'ai autre chose en tête. » Elle lui dit « Adrienne, cette fille va être notre ruine. Tu ferais mieux de te marier avec Mathilde. » Il lui répond « Surtout pas. Pourquoi ?»« Parce que cette femme est dangereuse. » Apolline hausse les épaules et lui dit « Mathilde, dangereuse, c'est plutôt toi, la pauvre. » Est amoureuse et sans défense. Ne crois pas ça, elle lui dit. Oui, je sais, elle va t'empêcher de voir Adrienne. Mais c'est de bonne guerre, non? Il demande de changer de conversation. Et toi, qu'as-tu fait? Si tu savais ce que j'ai fait, tu ne le croirais pas. Depuis qu'Adrienne sait sur Mathilde des choses, elle la voit autrement. C'est devenu une femme redoutable, qui l'épie et cherche à la séquestrer ou la tuer. Tout ce qu'elle dit ou fait a un double sens et devient menaçant. Pourtant Mathilde, qui ne sait rien de sa découverte, se comporte comme à l'accoutumée avec elle. Pendant le dîner, qu'elle prenne en silence, car Adrienne a peur de parler, et cette maison, ces pièces qui lui semblait si joli, familier, digne d'une femme de goût, devient pour elle quelque chose de sinistre. Elle a l'impression que les maisons l'enferment, l'encerclent, que chaque coin devient quelque chose de lugubre. Qu'as-tu, Adrienne ? Tu restes sans manger ? Comme ça ? Les yeux fixes ? Cette voix l'a fait sursauter. Rien, madame. Madame ? Mathilde, excusez-moi. Tu vas bien ? Je te trouve un peu pâle. Tu as des ennuis ? Non, pas du tout. Bien, alors mange. Adrienne mange sur le bout des lèvres. Après le repas, elles vont toutes deux au salon. Mathilde se met au piano et joue. Le piano se trouve sur le côté de la cheminée. Et les flammes vont danser. Les flammes donnent de grandes ombres de la femme et de son instrument, des ombres qui bougent tout le temps. La petite est habillée de noir, elle a de longues mains blanches, et sa musique triste et mélancolique rend encore plus lugubre le tableau. Demi-heure plus tard, Adrienne se lève, prise de vertige. Je vais me coucher. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir, ma petite. Une heure plus tard, Adrienne est dans son lit, essaye de dormir. Elle pense constamment à ce qu'elle a lu. Mathilde et son père sont des criminels. Son père a tué sa mère pour vivre avec Mathilde. Et elle, elle a tué son père pour être libre. C'est un véritable cauchemar. Un véritable cauchemar. On a frappé à la porte. Ce qui l'a fait sursauter. C'est moi, Mathilde. Je peux entrer? Après une seconde d'hésitation, ne sachant que faire. Oui. Il est entré avec un bol fumant et s'approche du lit. Je t'ai apporté une tisane pour te détendre. Mais je n'ai pas. Si ça te fera du bien, soulève-toi. Elle se soulève. Mathilde se penche pour la faire boire. Elle n'a pas éclairé la pièce. Seul le reflet de la lune éclaire la pièce et creuse le visage de Mathilde, qui le rend plus lugubre. Elle met le bord du bol contre les lèvres d'Adrienne, qui les ouvre pour boire. Elle a l'impression de boire le bouillon de 11 heures. Une fois qu'elle a eu bu, Mathilde se soulève et lui dit « Maintenant tu vas pouvoir dormir, te détendre. » Elle lui donne un baiser sur le front. « Bonne nuit, ma petite. Tu es toute brûlante. » Et elle sort de la pièce. Et Adrienne, un quart d'heure plus tard, s'endort. Le lendemain, elle se réveille détendue. Il fait grand jour, ce qui lui dit qu'elle a dû dormir un long moment. Elle s'étire de bonne humeur. Mais très vite, quelque chose la chiffonne. Elle se souvient. Sa gorge se serre. Elle va à ses cours comme d'habitude, mais sans entrain. Après ses cours, elle aimerait voir Charles-André pour être près de lui. Elle décide d'aller chez lui. C'est sa sœur qui a ouvert. Bonjour, vous désirez ? Elles sont surprises toutes deux. J'aimerais parler à Charles-André. Apolline lui dit sèchement. Il est absent. Adrienne déçue. Ah ? Oui, mais si vous pouvez l'attendre. Entrez. Apolline veut rester polie pour pas mettre en colère son frère. Adrienne entre. Apolline ferme la porte. C'est la première fois qu'elle vient chez Charles-André. Elle regarde bien son chez-lui. Apolline la fait rentrer au salon. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous voulez boire quelque chose ? Adrienne a la bouche sèche. À cause de l'émotion, elle dit « Oui, je veux bien, quelque chose de rafraîchissant. » Apolline lui dit « Du jus de pomme alors ? Ça fait un peu campagne, mais c'est très rafraîchissant et c'est bon pour le teint. Alors je veux bien. Excusez-moi, j'ai pas de domestique pour le moment. Je vais vous chercher la boisson. » Adrienne sourit et Apolline sort de la pièce. Adrienne regarde bien autour d'elle et se dit que c'est du mobilier d'appartement meublé. Apolline revient avec une bouteille et deux verres qu'elle pose sur la table et sert. Et s'assoit en face d'Adrienne. Elle lui demande après avoir bu. Vous voyez souvent mon frère, je crois. Oui, un peu. Et comment va Mathilde ? Très bien. Et vous, que devenez-vous ? Moi ? J'ouvre un café chantant à Montmartre. Adrienne est surprise. Montmartre ? Ce quartier populaire ? Apolline est rouge, lui dit. C'est juste pour me lancer. De toute façon, dès que mon frère est lancé et marié, j'arrêterai. Je trouve que Mathilde et lui font un très beau couple. D'ailleurs, tout le monde le dit. On les voit constamment à Boulogne. Adrienne soupire et ne dit rien. Pendant quelque temps, elle s'était distraite. Puis, les démons reviennent. Elle se lève et dit « Je dois vous quitter. Mais vous n'attendez pas mon frère ?»« Non, je n'ai plus le temps. » Apolline se lève et lui dit Vous êtes venu pour quelque chose ? Vous êtes venu pour quelque chose ? Pour quelque chose ? Adrienne ne se sent pas bien, la fatigue. Les émotions, elles vont tout tourner. Il voit tout tourner, n'entend plus, tombe comme un pantin, et c'est le noir. Lorsqu'elle se réveille, elle est dans son lit couché. Elle entend à côté d'elle Mathilde dire « Elle était très nerveuse, docteur. Je lui ai donné... Vous savez la tisane que vous avez prescrite à mon mari des derniers temps ? Le médecin lui dit
« J'ai touché son pouls. Il est très faible. Faiblesse générale, nervosité. Continue à lui donner cette tisane chaque jour. Et ces pilules. Je suis sûr que vous allez très bien vous en occuper, comme vous avez fait avec votre mari. Vous me payerez à la fin, lorsque les comprimés auront fait effet. Bien, au revoir madame. »
Une porte qui a claqué, des pas. Des objets que l'on touche, des pas. Ce doit être Mathilde. Oui, ce doit être Mathilde dans la chambre. Adrienne, ce sont des faillirs. Pendant ce temps, Charles-André est au salon avec sa sœur qui lui parle des malheurs d'Adrienne et de ses malaises. Elle ne t'a pas dit pourquoi elle est venue? Malheureusement, elle n'a pas eu le temps. Il lui dit, je suis sûr qu'elle est en danger. Tu aurais dû appeler Mathilde. Mais qu'aurais-je pu faire de plus? Rien. Je vais aller aux nouvelles, dit-il. Il sort du salon. Arrivé chez Mathilde, on le conduit au salon, où elle le reçoit. Je viens prendre des nouvelles d'Adrienne, elle lui dit. Elle se repose, j'ai tout de suite appelé le médecin, et il lui a donné des calmants. Il trouve qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de repos. Puis-je la voir? Elle dort. Savez-vous ce qu'elle voulait me dire? Aucune idée. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'elle te fréquentait, cette petite. Il hausse les épaules et lui dit « C'est pas le moment de me faire une scène de jalousie. » Elle fait un pas vers lui et lui demande « Tu l'aimes? Pourquoi me demandes-tu ça? Parce que vous voyez, c'est bien pour quelque chose. » Il a peur pour Adrienne. Et lui dit pour la protéger. Elle est venue me voir et c'est tout. Je ne sais même pas pourquoi. Je suis simplement venue, c'est pour avoir de ses nouvelles. C'est normal, puisqu'elle a eu un malaise chez moi. Tu ne vas pas me faire une scène pour ça? Non, bien sûr, je suis idiote, pardonne-moi. Mais c'est l'amour, je t'aime trop. Je me fais des idées. J'ai peur de te perdre. Si tu savais... J'espère que tu n'es pas fâché contre moi. Non, bien sûr. Elle lui donne un baiser sur la joue. Viens. Faire l'amour dans la même maison où se trouve Adrienne, il ne peut pas. Non, je n'ai pas le temps. Elle l'embrasse. Tu es fâché? Non, pas du tout, mais j'ai affaire. Elle lui caresse le cou. Mais qu'as-tu donc tant à faire? Des choses, je dois faire des choses pour ma sœur. » Elle lui met la main sur la taille et descend. « Laisse-moi, je t'en prie. » Il lui retire la main. Elle soupire. « Bon, très bien, je te laisse, si tu as affaire. » Il lui dit, « Ne sois pas fâché. Non, allez, va. » Il lui donne un baiser et sort. Une heure plus tard, allongé sur son lit, dans sa chambre, il réfléchit. Je détiens la lettre qui l'accuse, mais elle a Adrienne. Nous avons chacun quelque chose qui fait que ni l'un ni l'autre ne peut agir. Que faire? Moi, je sais qu'elle tient Adrienne, mais elle ne sait pas que j'ai la lettre. Faut-il la lui dire? Si elle ne le sait pas, elle se croit libre de faire ce qu'elle veut d'Adrienne. Mais si elle le sait, elle se sentira piégée et ne pourra plus agir. Elle me donnera Adrienne à la place de la lettre. J'aurai Adrienne, mais pas sa fortune. Sauf si elle meurt. Le lendemain matin, il a sonné chez Mathilde. Le domestique, comme à l'accoutumée, l'a mené au salon. Deux minutes plus tard, elle entre par une autre porte. Elle est en déshabillé bleu et lui dit, en s'approchant de lui, « Je suis heureuse que tu viennes de si bon matin, mon chéri. Je t'ai donc tant manqué. » Elle veut l'embrasser, il se dégage. « Je suis venue, c'est prendre des nouvelles d'Adrienne. » Elle soupire et lui dit, « Elle va très bien. » Elle se repose et dort. Le médecin dit qu'il ne faut pas de visite pour le moment. Jean-André lui demande, « Écoute Mathilde, je suis venu prendre Adrienne avec moi. » Elle est surprise et lui demande, « Et pourquoi ?»« Parce qu'elle n'est pas en sécurité avec toi. » »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il lui dit, « J'aime mieux, c'est tout vous dire. Nous savons, Adrienne et moi, toutes les circonstances de la mort de votre mari, et peut-être aussi celle de son père. » Mathilde devient rouge de fureur et lui demande, qu'est-ce que vous avez encore inventé? Je n'ai rien inventé. Je sais tout, et Adrienne aussi. C'est pour cela que je viens la prendre, parce qu'elle est en danger avec vous. Elle joue les épaules et lui demande, que savez-vous donc? Tout. Il sort de sa poche la lettre, retire la lettre de l'enveloppe. Et lui montre l'enveloppe. Vous reconnaissez cette écriture? Elle prend l'enveloppe, ne dit rien. Je vais vous lire la lettre. Et il la lit. Elle fait les 100 pas pendant qu'il lit. Une fois qu'il est fini, voilà, Elle s'arrête de marcher, lui fait face et lui dit « Et alors, ce n'est qu'une lettre ? Cela ne prouve rien. Donnez-la-moi. » « Non, Mathilde. » Elle déchire l'enveloppe qu'elle tenait à la main. S'approche de lui en tendant la main. « Non, je veux Adrienne. » Mathilde fait le geste de la lui prendre. Il se retire. Elle s'avance. Il recule. « Vous allez me donner cette lettre ?»« Non, je veux Adrienne. » Il met la lettre dans sa veste. « Vous ne l'aurez pas. Vous êtes à moi ou à personne. » Elle s'avance. Il recule. Elle se trouve près de la cheminée. Prend le tisonnier. Et s'avance vers lui, menaçante. Le tisonnier a l'air prêt à frapper. Elle fait le geste. Il se retire. Elle recommence. Il recule. Il cogne une chaise. La prend. Elle fait le geste de le frapper. Il se protège avec la chaise. Elle est en fureur, en sueur. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Lui ne cherche qu'à se défendre. Puis, elle donne des coups. Elle frappe, frappe, frappe. Ses coups ne touchent que la chaise. Et tout à coup, il lui lance la chaise.
Ce qui fait tomber le prisonnier.
Et la fait tomber à terre aussi. Assez joué, Mathilde. Je vais chercher Adrienne. Elle se redresse et lui crie. Non, la lettre. D'un geste, il la jette à terre. Et il sort du salon pour aller à l'étage. Les domestiques ont dû s'amuser de tout ce bruit. Madame avec son amant, ça va mal. Il paraît qu'il aime aussi la petite. Il la veut, il les veut toutes les deux. Chaud lapin.
Il ouvre toutes les portes du premier étage. Et trouve Adrienne dans sa chambre, dans son lit, qui est endormi. Il s'approche du lit et se penche.
Adrienne, ma chérie, viens, je viens te chercher, réveille-toi. Il la secoue. Adrienne, c'est moi, nous partons. Il se réveille. C'est toi, Charles-André? Oui, mon amour. Il donne un baiser sur la joue. « Je viens te chercher. Lève-toi. » Elle essaye de se soulever, n'y arrive pas. Elle lui dit « C'est les médicaments. Je vais te prendre dans mes bras. » Il la prend dans ses bras. « Que tu es légère, mon amour. Que tu es légère. » Et ils sortent de la pièce, descendent des escaliers. Arrivé devant la porte palière, Mathilde est là. Elle lui dit, « Ne sortirez pas d'ici, tant que tu m'auras pas donné la lettre. Mathilde, laisse-moi passer. Non !» Elle lui montre un revolver qu'elle a à la main. Il pose Adrienne sur une chaise.
va vers Mathilde.
Sort la lettre, la lui tend. Le revolver. La lettre. D'une main, il lui prend l'arme, de l'autre, il lui tend la lettre. Elle la prend et la déchire. Elle lui dit, « Mon pauvre Charles-André, tu as préféré cette petite à moi. Avec moi, tu aurais eu un bel avenir, tu aurais été quelqu'un. Je te promets un triste avenir. Pauvre misérable, tu vois, je ne t'aime plus. Allez, partez tous les deux. »
Elle va leur ouvrir la porte. Allez.
Il a pris Adrienne par le bras et il est sorti. Appeler un fiacre pour aller chez lui, à sonner. Apolline lui a ouvert. Que se passe-t-il ? Il lui dit, Adrienne n'est pas bien, il faut la coucher de suite. On va coucher Adrienne. Dans le lit d'Apolline, elle lui demande, que faut-il faire ? Laissons-la dormir et sous calmant. Et ils sortent de la chambre pour aller au salon. Apolline lui demande, tu peux me dire ce qui se passe? Il lui dit tout. La lettre et tout. Qu'allons-nous faire ? Il lui dit, j'ai décidé d'épouser. Elle devient pâle et lui dit, tu devras attendre un peu avant de prendre une décision. Nous sommes déjà ruinés à cause que tu as refusé Mathilde. On ferait peut-être bien de prévenir Paul. Fais comme tu veux. Apolline, pendant que Charles-André soigne Adrienne, va voir Paul dans son café-restaurant. Elle lui dit tout et lui dit, je ne peux plus rien faire pour vous. Tout est perdu. Je ne connaissais pas cette histoire, mais quelle importance. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Elle lui demande, qu'allons-nous devenir ? Je ne peux plus rien. Vous devez vous débrouiller tout seul. Apolline est furieuse. Si mon frère n'avait pas été amoureuse de cette petite idiote, nous aurions été heureuses. Et elle le quitte. Les jours passent, Adrienne se remet petit à petit, mais elle reste très faible. Le frère et la sœur la soignent le mieux qu'ils peuvent. Ils ont appelé un médecin qui leur a dit qu'elle avait une grande faiblesse due à une grande fatigue. ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc, repos, repos, repos. Charles-André passe une grande partie de son temps près d'elle. Apolline passe ses après-midi et ses soirées avec Michel à préparer le spectacle. Mais c'est elle qui, deux fois par jour, lui apporte ses médicaments. Apolline apprend ses chansons et s'en sort à peu près bien. À tout bout de champ, Michel la touche, la caresse. Apolline n'aime pas ça. Ça lui fait un drôle d'effet. Les mains de Michel qui la tripote, ses regards langoureux, ses baisers longs et mouillés. Cette façon qu'elle a de le plaquer contre elle. Un soir, que Michel, après une répétition de chant, lui défrosse sa robe, Apolline lui dit « Écoute, Michel, je n'aime pas que tu me tripotes comme ça. » Tout en continuant, Michel lui demande « Qu'est-ce que tu as, Dédé ?»« Rien. Et puis je m'appelle pas Dédé. Je veux pas qu'on me touche, voilà tout. » Elle se dégage. Michel, surprise, lui dit « Eh ben donc, t'es amoureuse ?»« Je n'ai pas d'amoureux. Personne ne t'a touché. Cela ne te regarde pas. » Michel va s'asseoir, les jambes écartées. Bon, très bien, mais tu vois le genre Sainte-Mitouche ici. Si à chaque fois qu'on te met la main quelque part, tu cries, Apolline lui dit, je suis ici, c'est pour apprendre à chanter, il n'y a rien d'autre. Michel sort du tabac, se fait une cigarette, et elle lui dit, tu veux te faire un nom, il faut faire des concessions. Elle lui dit, eh bien pas moi. Michel soupire. Apolline lui dit, moi je veux vraiment aimer quelqu'un. Je veux de l'amour, du vrai, pas du tripotage. Qu'est-ce que tu sais vraiment de l'amour, toi? Michel lui dit, je sais ce que c'est qu'aimer. Je sais ce que c'est que d'être rejeté, de dégoût, par la personne que vous aimez. J'ai toujours aimé, mais d'une façon différente des autres. On m'a toujours rejeté, parce que je ne suis pas comme les autres. Et ce que j'aime, je ne devrais pas l'aimer. Apolline lui dit, il est bien certain qu'avec tes idées, ta façon de te comporter, aucun homme ne peut t'aimer. Tu agis comme un goujat. Michel lui répond, qu'un homme ne peut m'aimer, ou le contraire. Mais cela n'empêche pas d'aimer. Apolline s'approche et lui demande, es-tu amoureuse en ce moment? Michel baisse la tête. Apolline lui demande, de qui? Michel lui dit, d'une personne qui ne peut m'aimer à cause de ce que je suis. Apolline lui dit, c'est bien ce que je disais. Michel hausse les épaules et lui dit, c'est pas à cause de ce que tu crois. Apolline lui demande, à cause de quoi alors? Michel sourit et lui répond, c'est pas pour les petites filles. Tu me prends pour une gourde? Pas du tout, mais ton éducation ne t'a pas préparé à certaines vérités. Apolline hausse les épaules et lui dit, mon éducation me pas empêché de faire ce que je voulais. La preuve, je suis ici. Michel lui dit, c'est peut-être un caprice de petite fille. Apolline lui dit, j'ai pas fait que ça. J'ai passé outre les convenances, la morale, par amour. Michel lui dit, on ne dirait pas. Je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai fait pour quelqu'un, ou plutôt même pour deux, mais qui pour moi ne faisait qu'un, Michel lui dit. Tu l'as fait, mais tu ne le referas pas. Je ne crois pas, non. Je suis prête à n'importe quoi pour préserver mon amour. Michel se lève. Et dit, j'ai soif, tu veux boire? Non, merci. Michel lui dit, je te comprends. L'on partage qu'avec des gens qui vous ressemblent.
Et là, vers la table, il se trouve une bouteille et deux verres. Elle s'est servie et boit.
Apolline lui dit, je dois partir, se fait tard. Tu connais le chemin? À demain. Oui, à demain. Et elle quitte la pièce. Charles-André passe toujours ses journées près d'Adrienne qui se remonte pas. Le médecin, un vieil homme à chevelure et barbe blanche, la taille moyenne, vient la voir toutes les semaines. Après l'avoir observée, auscultée, il dit à Pauline au salon.
Je ne comprends pas, elle s'affaiblit de plus en plus. Elle est pâle, froide. J'arrive pas à savoir pourquoi. Vous lui donnez bien mes médicaments?
Oui, docteur. Que vous me l'aviez dit.
Si son état ne s'améliore pas, je serai obligé de faire appel à un de mes collègues.
Apolline lui dit, oh, surtout pas, nous vous faisons confiance.
Bien, nous verrons comment les choses vont se faire.
Charles-André est auprès d'Adrienne. Il lui tient la main et lui dit
« Je suis sûr qu'elle m'a empoisonné. »
Il lui dit « Le docteur n'a rien trouvé ?»«
Pour son mari non plus. On n'avait rien trouvé. »
Il lui dit « J'ai bien réfléchi. Dès que tu iras un peu mieux, nous partirons tous les deux dans le midi. Nous louerons une petite maison au bord de la mer. » Elle lui dit
« J'ai réfléchi moi aussi. » Quelque chose me dit que nous devons nous marier le plus vite possible.
Charles-André panique un peu et lui dit « Je dois en parler à Apolline et je crois qu'il voudrait mieux, c'est que nous attendons que tu ailles mieux. »
« Non, faisons vite, le temps presse, la vie est courte. »
Il la tient serrée contre lui et lui dit
« Mais que dis-tu là? Tu as toute la vie devant toi. »
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Juniel Jean-Pierre.